À Canalem, on aime l'été.
Vous écoutez Aime l'été avec Emmanuel Robitaille et François Brodeur. Aujourd'hui à l'émission, les chiens sont à l'honneur et José Panet-Raymond vient nous parler de ces étranges camelots que l'on croise parfois dans le métro.
C'est bien dit. Effectivement, François, la générosité au profit de la sclérose en plaques également aujourd'hui à l'émission. Un nouvel instrument qui sort de l'ordinaire avec le reportage vivant d'Annick Fillion.
Un chef qui porte la jupe et un spécial Shawinigan pour sortir. Et tout ça parce qu'on aime l'été. C'était Nadia qui reprenait Hound Dog. Et on a en studio une autre fille qui a beaucoup de chiens, Emmanuel, qui va donc nous parler du meilleur ami de l'homme.
Tout à fait, et j'ai zéro chien. Je veux vous dire que je suis une cat lady à 100%, mais je suis plutôt une amoureuse des animaux en général. Et aujourd'hui, oui, le chien est à l'honneur. On le dit, tu l'as mentionné d'emblée, que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et on sait qu'avec toute la renommée de la zoothérapie, entre autres, que d'avoir un chien, c'est bon pour la santé. Bon, pour notre santé mentale en premier, là, parce que oui, la zoothérapie, ça marche. Avoir un chien, mais la zoothérapie, c'est pas juste avec les chiens, mais on en utilise beaucoup, on va le dire.
Donc, avoir un chien. Ça se casse mieux qu'un hippopotame dans un CHSLD.
On pratique pas nos jokes à l'émission, ça paraît-il. Toujours très drôle, François. Effectivement, c'est plus facile d'apporter un petit chien saucisse dans un CHSLD qu'un hippopotame. Bien vu, perspicacité 10 sur 10. Donc, oui, avoir un chien à ses côtés, ça permet de lutter contre le stress, ça diminuerait les risques de dépression, ça empêche l'isolement, on s'en doute bien, de ceux qui ont un réseau social plus limité, mais aussi l'American Heart Association s'est penchée sur les bienfaits qu'avoir un chien pouvait avoir sur notre santé. Au-delà de l'aspect émotionnel et psychologique, c'est également prouvé que c'est aussi bon pour le cœur et contre le diabète. Pour arriver à ces résultats-là, c'est une étude longitudinale, donc sur plusieurs années, qui a été menée sur plus de 5200 adultes. Ça, en termes d'échantillons, on considère ça comme plus que suffisant.
OK, représentatif d'une population générale.
Très bien.
Allez-y, c'est parce que le lien entre le diabète et le chien m'inquiète.
C'est inquiète?
Oui,
parce c'est que... C'est même pas une curiosité, c'est une inquiétude.
Ah ben oui, ça m'inquiète, évidemment. Qu'est-ce qu'il mange, ce monde-là, pour avoir le diabète, vous pensez?
Oh mon Dieu, c'est... Non. Je t'éclaire tout de suite. En fait, la raison, c'est simple. Les gens qui ont un chien sont généralement plus actifs. Hein? Ce qui va jouer un rôle direct sur les risques de diabète, de pression artérielle, de cholestérol. En fait, avoir à promener son chien, à aller au parc à chien, à toute activité quotidienne que tu te dois de faire avec un chien, réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, regarder son chien, c'est pas suffisant pour atteindre ces résultats-là. On se comprend. Ce n'est pas le simple fait que de l'avoir dans le coin du salon qui va avoir ces résultats-là, c'est bien sûr de faire les activités de base avec lui.
Le promener 3 fois par jour, notamment.
Notamment.
Mais non exclusivement.
Et voilà, exactement. Je vous parle également d'une cour pénale de la Corée du Sud qui a pris une décision historique et qui fait maintenant partie de la jurisprudence. Et ça pourrait être un pas extrêmement important dans des changements au niveau national, encore et toujours, concernant nos amis les chiens. Cette décision-là stipule à quel point il est illégal de tuer des chiens pour fin de les manger. On est en Corée du Sud. En fait, la consommation de la viande de chien en Corée du Sud, elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle a créé énormément de controverses, on va se le dire, depuis longtemps, par son clash absolument phénoménal dans les valeurs culturelles, entre autres avec chez nous. Merci aux activistes et aux influences occidentales. Cette pratique-là, elle est en déclin alors que maintenant, 70 % des Sud-Coréens refusent de manger de la viande de chien actuellement. La nation n'a pas officiellement banni cette pratique-là, mais elle a passé de plus petites lois pour la réguler, entre autres en obligeant les vendeurs à se conformer à de très hauts standards d'hygiène et de traitement des animaux. Un peu comme on fait avec nos vaches et nos poulets et nos cochons ici, juste de même. Et par contre...
Mais on les mange quand même.
C'est nommé. Oui, on y arrive tranquillement. Par contre, ce nouveau statut pénal-là pourrait changer la donne et amener enfin les choses un petit peu plus loin. L'Organisation pour les droits des animaux, le Coexistence of Animal Rights on Earth, ou CARE, ça c'est l'acronyme, a poursuivi en justice un fermier de chien, appelons-le comme ça, là, juste pour qu'on fasse le comparatif de ce qui pourrait se passer ici. Donc, un fermier de chien, appelons-le comme ça, parce qu'il ne s'était pas plié aux standards obligatoires. Et en plus de donner raison à l'organisation CARE, c'est là que la Cour a ajouté pour la première fois que la nourriture n'était pas une raison valable pour tuer la race canine. Maintenant, cette décision-là se trouve dans la jurisprudence, c'est comme une nouvelle... La jurisprudence, c'est une nouvelle base sur laquelle toutes les futures décisions du même type vont pouvoir être jugées. Donc, les chances sont grandes pour que la pratique soit bannie officiellement et pour toujours, avec un petit peu de patience et de persévérance.
Vous voyez ici, la situation juridique du chien a beaucoup progressé ces dernières années, puisqu'on a reconnu dans une loi qu'un chien, ou comme tous les animaux, était un animal sensible.
Avec, ce qui appelait un certain conscience. Traitement,
oui. Ceci dit, le ministère de l'Industrie du commerce a encore plus de poids que le MAPAC, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et le Québec est toujours la capitale des pet mills au Canada.
Et voilà.
Et enfin, je vous le dis tout de suite, un chien, c'est extrêmement dangereux pour votre image. J'ai cultivé pendant des années mon image de rocker sur le plateau Montréal jusqu'à ce que je garde le chien de mon ami. Or, promener un bichon maltais dans le réel, c'est... Oh.
ça a brisé tout ce que tu as essayé de construire en termes identitaires, François. Mais quand même, je vous parle maintenant d'un test d'ADN. Écoute, c'est vendredi et là, on tombe dans un ludique, fun, positive nouvelle. J'ai beaucoup de grammaire actuellement dans mon vocabulaire. Alors, il y a un test d'ADN, oui, qui a sauvé un chien de l'euthanasie. L'histoire concerne Jeb. C'est le chien d'un homme de 79 ans nommé Kenneth, qui, lui, est atteint d'une maladie dégénérative. Donc, on s'entend que Jeb, c'était son compagnon et c'était un important compagnon pour sa vie de tous les jours, on va se le dire. Et un jour, Jeb le chien a été accusé d'avoir tué le chien du voisin, Vlad, ce qui est un petit poméranien. Bon. Les accusations étaient basées sur un autre voisin qui disait avoir vu Jeb au-dessus du corps inerte de Vlad et donc qu'il était forcément coupable et qu'il
avec
l'avait
l'arme
forcément
du crime dans la gueule.
Genre avec le chandelier dans le salon j'accuse Mr. Green. Et ben c'est un petit peu ça. Donc il a vu cette scène-là, il a accusé Jeb et malheureusement, la famille de Jeb a été en cour pour défendre leur chien, mais le juge a identifié Jeb comme un chien dangereux et l'a sentencé à la mise à mort, comme on voit encore très souvent. La famille de Jeb, le chien accusé, on se rappelle, elle ne s'est toutefois pas arrêtée là. Connaissant le caractère doux de leur chien, ils ont exigé un test au coût de 416 $ pour prélever l'ADN dans la morsure retrouvée sur le petit poméranien Vlad et voir si elle concordait bien avec l'ADN de Jeb. Et vous vous en douterez, le résultat était négatif, ce qui a sauvé de la mort ce chien compagnon gentil.
Mais dites-moi pour rassurer nos communautés, est-ce que le coupable court toujours?
Le coupable, semble-t-il qu'il y a un tueur de chien qui n'a pas encore été arrêté. Et identifié.
Soyez prudents si vous sortez de chez vous.
Et je vous laisse avec une histoire vraiment magnifique, un Golden Retriever qui change le monde grâce à sa tâche de naissance qui est unique. C'est Judge, qui est un chien qui n'est pas comme les autres. Il a un an et il se démarque, oui, parce qu'il y a une tache de naissance noire vraiment bizarre sur le nez qui est absolument atypique de cette race de chien-là. Et justement, il attire le regard des gens, nécessairement, qui s'arrêtent dans la rue pour commenter ou poser des questions sur cette tache-là particulière que Judge possède. En fait, on doit la trace positive laissée par Judge également à son maître, Veronica Peterson, qui en a profité chaque fois que quelqu'un s'arrêtait pour poser des questions sur la tâche de Judge, pour les inviter eux-mêmes à identifier ce qui était remarquable chez eux, chez ces gens-là. Et elle a même fait une page Facebook qui s'appelle « The Remarkable Golden » avec certaines photos prises de Judge avec des étrangers par milliers. Et il y a des centaines et des centaines de gens qui s'expriment sur ce qui les rend spéciaux. Donc, la façon dont les gens se définissent dans ce qui les rend uniques vont tous dans le même sens de cette initiative-là qui permet de retrouver notre unicité, qui nous permet de nous démarquer avec nos différences et d'en être vraiment fiers. Et ça, ben, je trouve que c'est beau.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né et il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements, petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, et le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures, finis tes devoirs. Il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
A.M. l'été, Benabar, quatre murs et un toit.
Et sans plus attendre, j'ai le grand plaisir d'accueillir José Panet-Raymond, qui est chef du secteur magazine et rédaction à l'Itinéraire. Bonjour, Madame Panet-Raymond.
Bonjour à vous.
Parlez-nous un peu de l'Itinéraire, parlez-nous du média, parlez-nous des gens, parlez-nous de la mission.
Bien, l'Itinéraire, c'est un organisme extraordinaire qui, depuis près de 30 ans, vient en aide à des gens qui ont connu la rue ou bien qui sont dans une situation de précarité financière et sociale, de marginalisation. Alors, depuis 89, l'organisme a aidé les sans-abri à prendre leur place dans la société par le biais de l'écriture. Plus tard, en 94, le magazine est devenu mensuel. Il est devenu un magazine plutôt qu'un journal. Et puis, les camelots ont tranquillement pris leur place de plus en plus dans ce magazine-là. Alors, actuellement, le magazine est pas mal partout à Montréal, même à Saint-Jérôme, à Laval, à Longueuil, à Saint-Bruno, à Granby et à Sutton, et il est devenu une référence aussi dans le monde des médias. Alors, on en est très fiers.
Vous avez un tirage de combien de copies?
On tire à 12 000 copies par édition. 24
oh, c'est
par
quand
mois.
Même très bon. Il y a oui. plein de magazines au Québec qui pourraient oui. vous envier un tirage pareil.
Effectivement. Et quand on a des sujets comme pendant les fêtes, des magazines un petit peu spéciaux, on monte notre tirage jusqu'à 15 000.
Comme à peu près tout le monde à Montréal, je croise souvent les camelots, notamment dans le métro, qui nous vendent l'itinéraire. Parlez-nous un peu du fonctionnement, du contenu du magazine.
Le contenu du magazine est assuré à la fois par notre journaliste maison, Camille Test, en l'occurrence présentement. Et on a deux personnes qui accompagnent les camelots dans l'écriture, que ce soit des chroniques libres, des chroniques commandées d'actualité ou de société. Et pour les gens qui ont moins de capacité d'écriture, bien, il y a les mots de camelot, puis il y a des petits textes comme ça qu'ils peuvent faire. Mais on peut dire que depuis à peu près 3 ans maintenant, à peu près 50% du magazine, le contenu du magazine est assuré par les camelots.
OK. Et les permanents dans tout ça encadrent les camelots?
Absolument.
Vont revoir les copies, je suppose, oui. donner des conseils?
Bien, écoutez, je vais vous donner un exemple de la progression. On a des gens qui ont commencé avec des simples mots de camelot, et puis on a eu des formations on a deux personnes qui sont attitrées pour l'accompagnement des participants, qui vont travailler avec eux, qui vont préparer des questions pour des entrevues, etc., et ils vont progresser là-dedans. Dernièrement, au mois de juillet, à la fin du mois de mai plutôt, on a été à Ottawa pour interviewer Justin Trudeau avec trois de nos camelots. Et oh. notre photographe maison qui est un participant aussi. Alors, c'est dire à quel point on progresse avec les camelots et qui ont fait écouter un article assez formidable avec ça qui est maintenant diffusé un peu à travers le monde même.
Et je suis conscient que l'expérience en soi est une rémunération largement suffisante, mais les camelots gagnent de l'argent, là. C'est, oui. c'est quand même pas des bénévoles.
Non, c'est pas des bénévoles.
On parle de réinsertion ici.
Ils sont payés pour les articles qu'ils écrivent. C'est selon le niveau d'implication, selon la longueur de l'article, mais aussi leur participation à la recherche, à la rédaction, à l'entrevue, etc.
Mm-hmm. Donc, il y a une rémunération. Ça peut... Donnez-nous un horizon. Ça peut te payer combien, un camelot?
J'hésite
là?
À mettre, parce que c'est... On a un grand barème dépendant. Mm-hmm. Alors, on a toutes sortes de on peut, par exemple, un mot de camelot, ça peut être 20 $ et des magazines aussi. Alors, je ne veux pas donner de chiffre exact parce que ça varie vraiment d'un article à l'autre.
Et le modèle d'affaires de l'itinéraire, comment vous financez la publication? Parce qu'il y a des coûts qui sont quand même assez considérables, on ne se le cachera pas.
Oui, alors une bonne partie de notre financement provient des subventions du gouvernement fédéral, provincial, municipal même. On essaie de vendre de la publicité aussi pour le magazine dans un contexte de plus en plus difficile, mais on y arrive et puis on a des publicités. Des partenaires publicitaires qui sont de plus en plus fidèles, alors on les remercie.
Oui, parce que l'itinéraire, comme tous les autres médias au Québec, est aussi une victime du web sur le marché de la publicité.
Puis enfin, nous, on ne sera jamais web.
Ah, il n'y en a pas question. Il n'y a pas de camelot sur le web.
On se tire dans le pied, comme on dit. Alors, non, c'est pas juste non plus de vendre un magazine sur le coin de rue, c'est aussi d'une personne qui a été marginalisée, qui a été à l'extérieur du monde du travail pendant un bout de temps, à l'extérieur de la société même, juste l'acte de venir acheter son magazine à l'itinéraire, d'aller le vendre dans la rue, c'est une façon de prendre sa place dans la société.
Et comment on fait pour aller chercher un camelot, aller chercher un journaliste dans la rue?
Alors, les camelots, c'est des rédacteurs. Là. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des journalistes, mais c'est des rédacteurs, les camelots. Ils ne sont pas tous des rédacteurs, chacun selon leur capacité. C'est beaucoup du bouche en oreille. Alors, les camelots vont aller chercher d'autres gens. Et les gens viennent spontanément aussi là, quand ils ont besoin de...
Et en moyenne, il reste combien de temps l'itinéraire? C'est quelque chose qui fait partie d'un parcours...
Il y a des gens qui sont là depuis 25 ans. Parce que c'est des gens qui s'intégreront probablement jamais dans le marché du travail traditionnel. Il y a des gens qui sont de passage. On a actuellement 130 camelots actifs. Alors, de ce chiffre, la majorité sont là depuis à peu près 3-4 ans. Il y en a qui sont là depuis de longues années, puis d'autres qui sont seulement de passage, comme je disais.
Et on a souvent l'impression que l'itinéraire, c'est propre à Montréal, parce que, bon, personnellement, je suis natif de Granby, j'en ai jamais vu chez moi, mais c'est pas ça, là.
Vous êtes natif de Granby?
Ah, tout à fait.
Alors, vous allez rencontrer notre camelot qui s'appelle M. Sutton, ou M. Granby, selon, et Bertrand de Rome, qui est à Granby. Alors, on est à Granby, on est à Laval, Longueuil, Saint-Bruno, Saint-Jérôme, et on veut prendre de l'expansion aussi, là, pour se retrouver, parce que c'est pas juste vendre le magazine. On travaille avec des organismes qui sont en santé mentale, en itinérance à l'extérieur de Montréal. Parce qu'il n'y a pas juste l'itinérance à Montréal, il y en a aussi à l'extérieur. Alors, on travaille avec des organismes pour aller chercher des camelots qui vont les sortir aussi, comme on fait avec nos camelots à Montréal.
Et qui vont finalement appartenir à quelque chose d'un peu plus grand, justement. Là. Ça permet de mailler à travers plusieurs organisations et éventuellement de trouver sa voie.
Oui.
Mais ma question portait plus sur l'itinéraire, c'est quand même pas un modèle unique. Il y a plusieurs journaux de rue du même genre.
Oui, l'itinéraire fait partie de l'INSP, qui est le International Network of Street Papers, qui est basé en Écosse et qui regroupe, qui fédère une centaine de journaux de rue partout dans 35 pays du monde. Mm-hmm. Alors, c'est notre fil de presse, c'est notre ressource pour pour aller chercher de l'information, c'est notre source pour le partage, etc. Et c'est un réseau assez formidable.
Oui. Et mise en commun d'expérience, donc, vous vous rencontrez de temps à autre?
On va se rencontrer justement au sommet du 20 au 23 août en Écosse à Glasgow.
Ah, comme quoi l'itinérance, ça mène loin parfois.
Ouais. Vous dites l'itinérance, je dois préciser qu'à l'itinéraire, il y a juste 5% de nos Kamloops qui sont en fait itinérants.
OK.
La plupart sont pas loin de la rue, mais beaucoup sont d'ex-itinérants et c'est comme ça qu'on veut aussi.
Oui, parce qu'effectivement, c'est un préjugé à casser. Voyez-vous, je l'avais moi-même. Je me suis toujours imaginé que l'itinéraire, c'était le fait d'itinérant, justement.
Le ratio n'est pas celui que l'on pense et la mission amène justement plus loin et répond à d'autres besoins que simplement sortir les gens de la rue.
Absolument.
Une fois sorti, on peut continuer. Mais en 2018, c'est quoi la situation des sans-abri, rapidement et justement en terminant?
2018, on va utiliser les chiffres de 2015 parce que les chiffres du dénombrement de 2018 ne sont pas connus encore. On parle de 3016 personnes en situation d'itinérance. On pense que c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est quand on fait un dénombrement, c'est ce qu'on appelle un point in time. C'est un moment précis. Et avec certains chiffres des refuges et autres organismes, mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'itinérants à Montréal. Et puis, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
Et si on veut vous aider, on achète bien évidemment un exemplaire, mais est-ce qu'on peut le faire autrement?
Vous pouvez, oui, on accepte les dons. Allez sur notre site web, cliquez sur « Je veux faire un don ». Quand vous cliquez, l'argent va directement au... Il n'y a pas de 50 000...
D'entremise,
ça va directement à nos services. Parce que l'itinéraire, c'est plus qu'un magazine. C'est de l'aide alimentaire. C'est de la formation, c'est de l'aide au logement, c'est de l'intervention psychosociale, c'est une foule de services.
Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou alors vous recrutez tout ce que vous avez besoin?
On a beaucoup de demandes de bénévoles pour différents services, alors oui, on est intéressé. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel, puis on va regarder ça avec vous.
Et dans un monde idéal, vous seriez à la maison une petite et moyenne transnationale en mal de publicité sociale et vous signeriez un contrat à long terme avec l'itinéraire. Merci beaucoup, Madame
Panet-Raymond. Merci.
Merci. Mais des pourparlers de retrouvailles pour les 50 ans de Led Zeppelin. Savais-tu? Saviez-vous à la maison? Je vous l'annonce, Robert Plant, qui a maintenant 69 ans, avait dit que ça arriverait jamais, mais il y a juste des fous qui changent pas d'idée. On sait pas c'est quoi les projets, les idées qui se brassent actuellement, mais ça se brasse. Bonne nouvelle pour beaucoup, beaucoup de fans, beaucoup de mélomanes, parce que c'est un groupe mythique et qu'on aime Led Zeppelin ou pas, quand on aime la musique, on est content.
Vous écoutez Aime l'été.
En deuxième partie d'émission, il sera question de sclérose en plaques, d'une campagne de dons, donc, et Annick Filion qui vient nous parler d'un étrange instrument de musique.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grand devant vos enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot.
Des mots rues pour les poissonniers. Et des mots jetés pour les pas bien beaux. des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot.
Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots pour les béguins, des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés
pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
La rue Quétanou avec la chanson Les mots, les mots, les mots, les mots qui vont servir pour le bien jusqu'à la fin septembre. On parle avec Morgane Labaille, Labaille, je le dis bien, hein?
Oui.
Directrice du développement événement grand public pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Bonjour, Madame Labaille.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci pour votre invitation.
Mais ça fait plaisir. On va parler de sclérose en plaques et on va parler comment les mots peuvent aider les gens atteints de la sclérose en plaques jusqu'à la fin septembre. Mais tout d'abord, on va clarifier ce que c'est que la sclérose en plaques au quotidien, concrètement, pour les gens qui en sont atteints.
Donc, la sclérose en plaques est une maladie dégénérative, chronique et imprévisible qui s'attaque au système nerveux central des personnes qui en sont atteintes. Donc, la sclérose en plaques touche tout type de personnes. Ça peut être des jeunes enfants, des adultes, ça peut être vos voisins, vos collègues de travail. C'est une maladie qui est invisible. La sclérose en plaques se traduit, il y a trois formes de sclérose en plaques. La sclérose en plaques cyclique, qui est la forme la plus commune, qui atteint plus de 85% des personnes atteintes.
Cyclique, c'est-à-dire que ça revient. Il y a
exactement.
Certaines phases qui reviennent.
Tout à fait. Ça se traduit par des poussées puis des rémissions.
OK.
Donc, c'est une forme très commune. Il y a également la SP progressive primaire, qui est une forme qui se traduit par aucune réémission, et puis qui aggrave l'état de santé de la personne atteinte progressivement.
Donc là, on a simplement une chute et une descente.
Mais c'est progressif.
Fonctionnement de la personne.
Exactement. Puis cela peut se traduire sur plusieurs années. Donc c'est très progressif. Puis la dernière forme principale de cette maladie-là, c'est la sclérose en plaques, je veux dire la SP progressive secondaire, qui est la phase 2 de la forme cyclique.
Mm-hmm. Juste intervenir un peu, la sclérose en plaques, c'est surtout connu pour une variété incroyable de symptômes différents, parce qu'il s'agit de nerfs qui perdent leur gaine d'isolation. Là.
Tout à fait. Donc, les symptômes varient d'une personne à une autre. Et les symptômes varient également pour les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques cyclique. Les symptômes varient d'une poussée à une autre.
Donc, la personne peut avoir un problème au niveau des jambes, par exemple.
Donc, ça se traduit.
Être en fauteuil roulant, aller mieux, et finalement, quand ça revient, c'est les yeux
exactement.
Qui sont atteints.
Tout à fait. Donc, ça peut être des troubles de la vision, des troubles au niveau donc l'engourdissement, au niveau des jambes. Vous pouvez avoir des jambes jusqu'aux aisselles, par exemple. C'est un exemple très concret. Des troubles de la vision, des troubles cognitifs, des troubles urinaires également. Donc, c'est une maladie qui atteint tous les sens de la personne et qui évolue au fil du temps également.
Et vous l'avez dit, c'est très imprévisible et c'est de là que c'est, l'imprévisibilité, elle est très grande. On sait
exactement.
Qu'il y a 85% des gens atteints de sclérose en plaques qui ont une sclérose en plaques de type cyclique.
Tout à fait.
Combien de gens sont atteints au Québec et au Canada de sclérose en plaques?
Alors, selon les derniers chiffres, au Canada, on dénombre plus de 77 000 Canadiens atteints de sclérose en plaques. Au Québec, cela varie entre 15 000 et 20 000.
Et on peut aussi penser qu'il y a quand même une certaine quantité de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées encore.
C'est latent.
Tout à fait.
Oui,
tout à fait.
Ça.
Exactement. Puis c'est une maladie qui touche trois fois plus les femmes que les hommes. Elle atteint également des jeunes enfants, des très jeunes enfants. Au niveau des chiffres, on parle d'une personne sur 385 qui vit avec l'ASP au Canada. En moyenne, 11 Canadiens reçoivent un diagnostic de SP par jour. Donc, c'est une maladie qui est, euh, qui est quand même assez répandu et généralisé au Canada.
11 personnes par jour au Canada, donc environ une personne à l'heure. Donc, pendant qu'on a fait l'émission, il y a une personne qui avait la sclérose en plaques. Et donc là, la recherche, c'est un pan de recherche absolument qui est grand et qui est pris au sérieux parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on en sait un petit peu plus, on en sait moins. C'est difficile des fois d'avancer dans des types de maladies comme ça. Où est-ce qu'on en est?
Donc, au niveau de la recherche, il faut savoir que le Canada est le pays, donc, est leader mondial sur la recherche de l'ASP. De grands pas ont été franchis depuis les dernières années. Actuellement, la recherche nous a permis de découvrir 14 médicaments qui permettent d'atténuer les symptômes, puis d'offrir surtout une meilleure qualité de vie aux personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques cyclique. Mais depuis 2 ans, d'un point de vue mondial, les scientifiques se concentrent de plus en plus sur les formes progressives, qui sont, on dénote que la forme progressive est la forme la plus dévastatrice. Mmh. Donc la recherche se concentre beaucoup dessus. Et donc début février 2018, l'Ocrevus est un médicament qui a été approuvé, homologué, et qui permet aux personnes atteintes de formes progressives d'avoir accès à ce médicament-là.
Est-ce qu'il va être sur la liste des médicaments mis en disponibilité par la RAMQ?
C'est une très bonne question. C'est quelque chose que nous devons, que je devrais également vous faire, vous confirmer. Mm-hmm. Je n'ai pas la réponse pour le moment.
Et ce médicament-là, quelle est sa façon d'agir? Est-ce qu'il ralentit la progression? Est-ce qu'il y a un plateau chez ces gens-là qui se voient descendre constamment? Est-ce qu'on atteint un plateau?
Je vous dirais que selon les témoignages de personnes que nous avons recueillies, mm-hmm, et qui sont atteintes de SP progressive et qui ont eu le traitement de l'Ocrevus, cela permet justement un ralentissement et d'améliorer vraiment leur quotidien.
Mm-hmm. Donc, on fait pas simplement arrêter la progression des symptômes, mais aussi on va mieux. Fait que ça, c'est déjà
exactement
une bonne nouvelle. Et ça, c'est une des façons qu'on aide les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, oui, par la recherche. Mm-hmm. Et il y a une campagne de dons qui est en train de battre son plein, et ça jusqu'à la fin septembre, qui s'appelle « Texter pour la SP ».
Tout à fait. Donc, c'est une campagne qu'on a amorcée au mois de mai, le 1er mai précisément. C'est une campagne que nous avons conçue conjointement avec Ogilvy Common Health, mm-hmm, qui nous ont aidés à collaborer sur cette campagne-là de manière bénévole. Mm-hmm. Nous avons amorcé cette campagne-là à la gare centrale avec nos ambassadeurs et également les visages de l'ASP. Donc, nous avons souhaité vraiment bâtir une campagne pour cibler une jeune clientèle, mais aussi de futurs donateurs. Donc c'est une campagne que nous développons jusqu'au mois de septembre et que nous allons également développer l'année prochaine.
C'est très branché et très branché sur la nouvelle réalité également que d'offrir la possibilité de donner par
tout à fait
texto. Comment on fait?
Alors, tout simplement, vous pouvez texter SP au 4-10-10. Vous allez recevoir des messages. Vous devez juste suivre la procédure et suite à la fin de la procédure, c'est activé. Cela se prélève sur votre facture de téléphone chaque mois et vous pouvez le résilier quand vous le voulez.
Donc, il y aura une mensualité qui sera prise jusqu'à résiliation.
Exactement.
Du don que nous allons faire. Donc, le montant restera le même chaque mois à la
tout
même
à
journée. C'est pris sur notre facture de téléphone et c'est au 4-10-10. On doit texter SP.
Tout à fait.
Exactement.
Exactement.
Et à quoi vont servir concrètement ces dons-là?
Donc, les fonds sont principalement, permettent principalement donc, d'offrir des services pour le bien-être des personnes atteintes. Mm-hmm. Bien évidemment, la recherche, financer la recherche, donc tous les travaux qui sont effectués pour connaître aussi les causes, les facteurs de risque de la maladie.
Parce qu'on veut prévenir plutôt que guérir.
Tout
on
à
comprend.
Fait.
Le but, c'est toujours de comprendre comment ça marche et d'éviter là, que ça
tout
commence.
Mais également de financer des programmes et services que nous mettons à disposition des personnes atteintes, comme par exemple de financer un camp de vacances pour des jeunes de 7 à 17 ans, dont un des parents est atteint de la sclérose en plaques. Donc, cela fait partie des services que nous offrons également.
Parce qu'on oublie souvent l'entourage de ces gens-là. Quand la maladie cogne à la porte de quelqu'un, c'est à la porte de sa maison que la maladie cogne. Donc, de penser aux enfants, d'offrir un répit aux parents également, tout en
tout
offrant
à
l'enfant,
tout
oui, l'occasion de respirer, de tout le monde de respirer et de se retrouver. C'est vraiment une initiative qu'on oublie souvent, dont on oublie souvent l'importance. Mm-hmm. On peut donner, par contre, durant toute l'année, si on choisit de donner autrement.
Tout à fait. Donc, il y a différentes façons de donner. Donc, il y a des dons en ligne qui peuvent se faire par l'intermédiaire de notre site Internet.
Mm-hmm.
Mais vous pouvez également donner de différentes manières. Vous pouvez être partenaire, devenir partenaire d'un de nos événements ou participer à un de nos événements. Donc, présentement, nous avons des événements grand public comme la Marche de l'Espoir qui a lieu fin mai. Chaque année, qui est au niveau national. Le vélo tour, si vous êtes amateur de vélo, vous pouvez également parcourir l'Outaouais cette année, qui a lieu le 25 et 26 août cette année, mais qui a lieu dans une province, dans une région différente chaque année.
Et si on veut aller consulter tous ces événements publics-là, on se rend sur votre site web?
Sur notre site web.
Qui est le?
scléroseenplaques.ca.
scléroseenplaques.ca. .ca et on rappelle que le texto SP doit être envoyé au 4-10-10. Morgane Labaille, directrice du développement à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Merci beaucoup de nous avoir informés et on vous souhaite une très belle et grande et généreuse campagne.
Merci beaucoup.
Millénaires nous ont adoptés et nous vivions heureux.
Canal M, Polo et Pan, Canopée.
Et sans plus attendre, Annick Filion nous présente sa chronique sans tambour ni trompette.
Sans tambour ni trompette.
Et
bonjour.
Bonjour. Vous allez nous démontrer aujourd'hui qu'il est possible pour un accordéon diatonique de se reproduire avec un violon.
Ah, je rentrerai pas dans les détails du comment
de la conception de cet instrument.
Disons-le comme ça.
Oui. Allô, Annick, comment ça va?
Ça va bien, vous deux?
Oui,
ça va?
Toujours aussi surprenant de te recevoir en studio. Tant pour les instruments que les conversations.
J'arrive toujours avec une bibite hybride de quelque chose. Alors aujourd'hui, on parle de l'instrument national de la Suède, le nickel harpa. Alors il a un petit nom, le nickel harpa. Alors pour faire suite là, dans l'hybride, alors c'est un instrument entre le violon, la guitare, la vielle à roue et le piano. Est-ce que vous faites une petite idée de sa sonorité?
Zéro.
Oui, tout à fait. Non, mais vu comme ça.
et qui plus encore, hein, est-ce que vous faites une idée de visuellement de quoi, ce qui peut avoir l'air, à quoi il peut ressembler cette bibite?
J'ai triché, je suis allé voir sur le net.
Ah, OK, on le dit pas. Alors donc, de mon côté, à moi, avant d'aller le voir sur le net, de mon côté, je me disais... L'instrument national de la Suède, Ikea, la clé Allen. Aïe, j'espère qu'il n'arrive pas dans une boîte tout démontée.
Alors, la joie de cet instrument, mesdames et messieurs, c'est que vous devez le monter vous-même pour avoir la chance d'en jouer.
Alors, je vous invite sans plus tarder à faire la rencontre de Jean-François Bélanger et de son instrument, le nickel harpa.
Ça va bien? Enchanté. Je vais passer, ça va être dans le salon.
Aujourd'hui, on fait une incursion dans la culture musicale scandinave, à l'allure tantôt baroque, tantôt viking. Jouer sur un instrument qui a l'allure à tout le moins un peu hétéroclite.
C'est comme un violon qu'on tiendrait comme une guitare.
Oui, c'est une bonne image. On le prend en bandoulière, en avant, comme si on était un chansonnier, sauf que notre instrument est pas mal plus étrange.
Jean-François Bélanger, je suis musicien, compositeur, mais je joue du nickel harpa, un drôle d'instrument suédois qui date de l'époque médiévale. On est dans le 13e, 14e siècle, donc on est avant les instruments d'orchestre qu'on connaît plus aujourd'hui.
Alors le nickel harpa, ça ressemble à un violon très allongé, joué avec un petit archet et porté comme une guitare. Mais attendez, il y a aussi un clavier sur les cordes.
Alors c'est un peu comme si on avait des pitons, un violon à pitons. Alors on appuie... Et c'est un petit bout de bois qui va aller toucher la corde au lieu du doigt directement. Et c'est comme ça que fonctionne l'instrument. Puis ça amène aussi un élément percussif étonnant à l'instrument. Alors là, je ne joue pas du tout avec l'archet. Ça s'ajoute. C'est pas fait pour qu'on l'entende nécessairement, mais moi, j'adore le bruit que ça fait.
Le nickel harpa est un instrument qui semble résonner davantage que le violon. En fait, il a plusieurs cordes.
Il y a 16 cordes sur l'instrument, 4 mélodiques et 12 pour tous les demi-tons de la gamme qui vont être les cordes sympathiques. Une corde sympathique, on ne lui touche pas, puis elle va résonner par sympathie justement. Si la fréquence est la même, on entend la même note. Alors ça amplifie la résonance de l'instrument. On peut faire un test simple. Là, ça prend la foi des auditeurs parce qu'ils ne sont pas là pour voir. Alors je vais frotter avec l'archet la note sol et je vais éteindre la corde sur laquelle que je viens de jouer et on va encore entendre du son. Tout ce qui continue, c'est pas du tout la corde que je viens de jouer. Alors, c'est la corde sympathique qui amène la résonance supplémentaire. Imaginez quand on joue, depuis une minute, toute la réverbération qui s'accumule. Alors, c'est une des caractéristiques de l'instrument. J'ai l'impression de promener une petite église avec moi.
Mais qu'est-ce qui a attiré Jean-François Bélanger au nickel harpa, l'instrument national de la Suède?
la musique scandinave a sa personnalité. Et justement, c'est une personnalité qui a quelque chose de très vaste dans le registre émotif. On peut être dans l'époque de Louis XIV encore, dans les pièces qu'on entend, ça sonne près de la musique baroque. Puis on peut être du côté viking, intense, voire violent, même dans les textes de chansons, mais dans la musique, il y a une énergie, on est plus dans les instincts, on n'est pas dans l'esprit. Et il y a tout ça dans le registre de la musique traditionnelle, particulièrement la musique traditionnelle suédoise. Et ça, c'est assez unique.
En plus de jouer du nickel arpa, Jean-François Bélanger est également psychiatre. Un métier qui me semble, à prime abord, un peu à l'opposé de celui de musicien. Y voit-il un lien?
Plus j'avance, plus peut-être je gagne en sagesse, qui sait. Je vois le lien entre les deux. En fait, on est dans le mystère de l'humain, on est dans ce qui est indicible, on est dans ce qui est la recherche de communication avec l'autre. Si on veut jouer de la musique tout seul chez soi, chose d'un peu absurde, on veut la communiquer, la musique, et on est dans le non-dit, on n'est pas nécessairement dans les mots. Et puis c'est beaucoup ça dans le métier aussi, il faut capter qu'est-ce qui se passe en présence de l'autre personne, sa souffrance, ses difficultés, il faut être dans un contact très fraternel, et je dirais que ça en musique.
Qu'est-ce que vous aimez dans le son de cet instrument-là?
Il y a toute la résonance, le côté introspectif peut-être me parle plus. C'est ça, on fait un son, puis il perdure. Cet instrument-là, c'est comme si on était en conversation avec lui assez longtemps. Toute une étendue disponible émotive. On peut aller dans tellement de registres différents.
Je vais descendre avec vous. C'est lourd,
Quand même, oui.
Okay.
Alors, M. Johansson avait une façon de faire ses instruments, ça m'intéressait. Puis bon, avec le temps, bon, j'avais demandé des pièces de rechange en cas de besoin, des cordes. Et là, il y a quelques années, j'avais plus de cordes. La plus petite, la mi. Je rappelle, j'apprends qu'il est en phase terminale, donc je parle à son associé. Et finalement, je comprends que la corde, je la trouvais pas parce que c'était du fil à pêche pour la pêche aux requins. Puis il me dit, c'est les Norvégiens qui utilisaient ça. J'ai dit, en avez-vous encore? Il dit, ben non, j'ai pas de ça. Alors ça a été une quête. Mais bien, on a essayé tellement de cordes d'instruments. Finalement, je trouvais aucune solution. J'ai essayé une corde de guitare à 2 $. Impeccable. Alors voilà, c'est peut-être le lien avec les requins, là. La pêche, ça a été mon lien. Je me suis demandé où est-ce qu'il avait pris ce filage.
C'était au Dollarama, finalement.
Ouais, probablement le Dollarama suédois, oui.
C'était Jean-François Bélanger. Et si on veut l'entendre jouer?
Ben oui, il fait plusieurs concerts cet été, cet automne, donc dont à l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Mata, au festival La Grande Rencontre à plusieurs reprises, également à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts. Vous pouvez retrouver tout ça sur son site internet, jeanfrançoisbélanger.com. Il a aussi plusieurs CD qu'on peut acheter directement sur son site ou sur iTunes.
Un instrument à découvrir, un son très riche aussi, s'il faut le remarquer. Là.
Oui, oui, oui. C'est fantastique. Il joue plusieurs instruments aussi. Donc, vous avez tout un éventail là, sur ces CD. C'est très intéressant.
Merci beaucoup, Annick. Et on sait, en tout cas, on vient de me dire à l'oreille que dès la semaine prochaine, on va pouvoir continuer à écouter tes reportages vivants. Tu ne quittes pas le navire, mais on va pouvoir t'entendre les jeudis plutôt que les vendredis à M l'été.
Il faut changer ses habitudes.
Oui, c'est ça. Il n'y a rien de plus... Comment ça? Il n'y a rien de plus permanent que le changement. Comme
c'est bien dit.
Annick Filion, c'est toujours un énorme plaisir de te recevoir à l'émission. Merci pour toutes ces belles découvertes. Merci. Et moi, le jeudi, je ne suis pas à la barre de l'émission, donc je vais t'écouter de la maison.
Ça va être bien avec un petit café.
Merci.
Merci beaucoup.
« À ne pas manquer, le World Press Photo y a une visite hors de l'ordinaire le 7 septembre, accompagné de bénévoles du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qui vous décriront les photos. Ne manquez pas l'occasion de découvrir les images marquantes de l'année 2017.
Écoutez, aime l'été.
Nous sommes toujours au Canal M à Aime l'été. Nous sommes toujours le vendredi 3 août. Nous sommes toujours en 2018 également.
Oui, dans le système solaire. On lâche pas.
François Brodeur, Emmanuel Robitaille avec vous pour cette dernière partie de l'émission. On se promène des Maritimes à Shawinigan avec Alain Bossé, dit The Kilted Chef, et Maxime des Pomerleaux.
Dans une ville lointaine, je me suis perdue dans la foule. Juste des visages à la chaîne, de milliers de gens qui se bousculent. Et dans une ville si grande, j'ai perdu tous mes repas. Je me suis presque cru folle de ne pas vouloir y être. Il faudrait que je retourne chez nous. Il faudrait que je retourne chez nous. Et dans une ville si peuplée, j'ai appris à me camoufler parmi les artistes, les raveurs, les ouvriers. Je ne sais même pas où me placer. Et dans cette ville qui me saoule, ma tête est comme un carrousel. Je tourne et je tourne sans arrêt dans un tourbillon éternel. Il faudrait que je retourne chez nous. Il faudrait que je retourne chez nous. Je retourne chez nous. Si jamais je m'en sors, si de ce monde fou, à l'abri de ce monde fou, à l'abri de ce monde fou.
Caroline Savoie dans une ville.
Il a déjà cuisiné pour le prince Charles.
Mm-hmm.
Quand même. Sa philosophie, c'est vivre local, manger local. Et c'est pourquoi il est le parfait ambassadeur de la gastronomie des provinces maritimes. Ça fait 10 ans qu'il fait la promotion des produits canadiens de l'Atlantique. Et on l'a avec nous, nous, chanceux, en ce vendredi après-midi, pour parler gastronomie et activités des maritimes, dit The Kilted Chef. Alain Bossé, bonjour.
C'était un gros titre, hein? Merci, bonjour.
C'était une entrée de jeu à votre hauteur, on va le dire. Comment allez-vous?
Moi, je vais super bien aujourd'hui. On a un beau soleil partout dans notre région.
C'est vrai, non, ici c'est gris un peu. Vous l'avez pris, vous l'avez emprunté, hein? On l'a eu quand même longtemps ici. Là.
Bon, ici, là, c'est plus 30 degrés, beau soleil, puis tout le monde sont hâte la longue fin de semaine. On est sur une longue fin de semaine, le mois d'août.
Et justement, c'est une bonne idée parce que dans les maritimes, il y a beaucoup à faire, tant pour manger que s'amuser. Vous êtes là pour nous en parler.
Ah, c'est certain. Il y a beaucoup de choses à faire partout dans les provinces atlantiques, dans les 4 provinces. On a du fun. On a un beau gros festival qui commence la semaine prochaine, qu'on est très excité, qui s'appelle Océan Festive, qui va promouvoir nos fruits de mer locaux de notre région. Donc, je suis le chef cuisinier, ce qui suit le montage pour faire l'organisation. On voulait vraiment faire le festival d'une façon que c'est pas toute de la nourriture, c'est pas tout fait de la friteuse, mais vraiment des produits de fruits de mer frais. Là. Ça fait qu'on va être possible de manger du homard, du crabe des neiges, des coques, des moules, des huîtres,
pitié,
des crevettes.
Pitié.
On se trouve un peu loin présentement.
Je pourrais vous continuer la petite chanson. Mais on a développé un en particulier parce que celui qui s'est développé dans la province du Nouveau-Brunswick, il représente les produits de fruits de mer atlantique des 4 provinces. Mais parce qu'on était au Nouveau-Brunswick, j'ai développé une pomme de terre. Vous prenez là? Voici.
Allez-y.
Une belle pomme de terre fraîche, cuite au four,
mm-hmm.
avec des crottes de fromage, avec une sauce de fruits de mer au beurre et à la crème, un petit peu de safran. Ça va être dégueulasse.
Voulez-vous être mon ami?
Ça va être vraiment l'eau à la bouche, ça va être...
Offrez-vous des services privés personnalisés.
Monsieur Bossé. On fait ça tous les jours.
Et là, mais c'est important de le nommer parce que et récemment, je veux en parler, Chédiac est devenu cher à votre cœur.
Oui. Ben là, Chédiac est devenu le champion mondial du plus long lobster roll. Que oh. Moi, j'ai fait moi-même, de mes mains. Oh, c'est extraordinaire. J'ai travaillé avec une association des chevaliers de colons de la région qui ont venu comme volontaires. Ça nous a pris 12h30 pour cuire le pain lui-même.
Et il avait quelle longueur, ce lobster roll?
224 pieds.
Pardon? 224. Oui, OK. Exactement. On s'attendait vraiment. Moi, c'était pas dans le range que je m'attendais. Là. J'avais pas nécessairement d'attente, mais quand même. Hey.
Je me suis servi de 180 livres, donc 65 kilos à peu près, de viande de homard pour mettre dans le lobster roll.
Êtes-vous conscient que les animateurs d'émissions du midi n'ont pas mangé au moment d'entrer en onde? Parce que, je vous dis ça parce que présentement, ça se pourrait que je m'évanouisse avant la fin.
Oh non!
C'était pour moi-même dans ma carrière. C'est pas quelque chose que j'avais jamais expérimenté de faire de quoi de si gros, là.
Mm-hmm.
Comme sandwich, là, disons, là, mais vraiment un lobster roll.
Mais c'est quelque chose qu'on vous a qui a été fait sur demande, qu'on vous a fait une requête ou vous vous êtes dit un matin, moi, il me manque de défis dans ma vie, je me lance dans un record.
Sincèrement. Non, j'ai eu des rêves de ça là, pour des semaines puis des semaines. Ça faisait partie du festival de homard de Chédiac au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'avais été demandé par le maire et puis les organisateurs de participer cette année pour donner une coche, un genre de coche au festival. Puis, on a décidé d'interpréter. Ils avaient déjà compétitionné sur le plus gros homard. Je sais pas, le plus long qu'ils avaient fait avant, c'était c'était 100 pieds ou 108 pieds ou 180 pieds.
Dans une autre classe, là, ça ne comptait pas. Là.
Ouais, mais 224 pieds.
C'est impressionnant.
Pieds, là, ils ont coché, là, ça, c'était vraiment bien. Puis les chevaliers de Colomb, la façon qu'on l'a fait, c'est qu'à chaque 25 secondes, il fallait dépasser le pain au travers du fourneau de un quart de pouce. Donc, j'avais 40 volontaires pour 12 heures de temps qui ont juste avancé le pain de un quart de pouce.
Et là, le festival qui a lieu la semaine prochaine, on rappelle aux auditeurs que vous êtes le chef qui va s'occuper de nourrir toutes les bouches présentes, c'est ça?
Exactement.
Ça nous donne envie de se déplacer et d'y aller, là.
Bien, on a aidé chaque kiosque à développer des recettes nouvelles, soit de celles dans les moules. J'ai une moule à la crème et bacon double fumé et tarragon. J'ai des coques avec style ceviche. J'ai des crevettes en sauce d'homard. On a des pétons sautés avec une confiture au bacon.
Vous êtes cruel.
François a des malaises en studio.
Vraiment, ouais, les bacon, on fait une confiture avec du bacon, du café, un petit peu d'oignon, de l'ail, puis ça sort extraordinaire, puis ça va sur une pétanque sauter au beurre frais.
Oh, rappelez-nous le nom de ce festival-là ainsi que les dates auxquelles il commence et il termine, s'il vous plaît, M. Bossé.
Il commence le 9 août jusqu'au 12 août, inclusif avec des spectacles de musique. La première journée, c'est le style anglais. Donc, on a des orchestres de toutes les sortes, de toute la région, de toutes les différentes régions du coin de pays. Et puis, la deuxième journée, c'est un frolic acadien là, pour vraiment une célébration. Puis, moi, je vais faire le lancement de mon nouveau livre en occasion de ce festival-là, cette journée-là, le samedi.
Oui, vous avez sorti un nouveau livre sur les recettes acadiennes, « The Acadian Kitchen Recipes from Then and Now », qui va sortir bientôt.
Oui, ben, il est sorti, là, il est finalement disponible dans plusieurs librairies, partout au Québec aussi, partout au Canada, en fin de compte, et puis disponible au travers de Indigo, Chapters, Amazon, etc.
Et on retrouve quoi dans votre livre de recettes, pour ceux qui veulent se le procurer? Qu'est-ce qu'on y retrouve pour ceux qui souhaitent se le procurer, mais qui se disent, bon, qu'est-ce que je peux bien apprendre? Là, on se rend compte qu'on va en apprendre beaucoup, mais quoi encore?
Ben oui, bonne question. Écoute, c'est vraiment, ça démontre notre culture acadienne. Les Acadiens ont été expropriés dans les années 1700. Mais c'était tragique, puis ils sont tournés un peu partout, dans la Louisiane, dans la France, un peu au nord du Nouveau-Brunswick, partout cachés ici et là. Mais la culture et la nourriture vont être racontées d'une façon que les gens, jusqu'à présent, ça fait quoi, une couple de semaines qu'on a le livre dans nos mains, puis on a la chance d'en vendre, disons, un bon nombre, là. Puis la réaction est très simple. Soit que ça soit une personne de 12 ans ou une personne de 90 ans ou une personne de 40 ans, on a vu tout le monde m'acheter, la réaction était la même. Ma grand-mère faisait ça. Puis je n'ai plus la recette. C'est vraiment ça qu'on voulait captiver.
Donc, vous ramenez les gens à leurs racines alimentaires, en plus de nous la faire connaître à nous qui ne l'avons jamais goûtée, qui ne la connaissons pas. C'est une pierre deux coups, on va se le dire. Vous êtes également une personnalité publique. Les gens, au-delà d'aimer ce que vous concoctez, les gens vous aiment. Vous offrez des ateliers. Il y a des possibilités de travailler avec vous. Et pour en savoir plus, on invite les gens à vous suivre sur Facebook. La page, c'est The Kilted Chef. Alain Bossé, on n'oublie pas d'aller vous rejoindre dans les Maritimes pour ce merveilleux festival dont vous êtes le cuisinier du 9 août au 12 août. Et on vous remercie infiniment de nous avoir mis autant l'eau à la bouche. Nous, on n'a pas terminé.
En fait, j'ai une question. Il faut que je la pose. Livrez-vous.
Oui. Ben, des fois, ça dépend si vous êtes dans une belle région.
À Montréal, c'est très bien.
Merci infiniment de nous avoir mis l'eau à la bouche. Et bon succès pour votre nouveau livre, M. Bossé.
N'importe quand. Merci beaucoup.
Merci.
Assieds-toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. Repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Assieds-toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. Repoussons nos limites.
Si tu ne choisis pas, je te rends.
Dis-moi ce que tu préfères. Être le sosie officiel de Trump.
Ou le sous-officier d'Hitler. Dis-moi et tant pis si tu te trompes. Oui, dis-moi ce que tu préfères. Bouffer de la terre, tomber de haut.
Ou attendre patiemment la guerre. Et qu'il bafoue nos idéaux.
La vie défile vite. On s'épuise à trop se battre. Viens, on défile vite. Acrobate.
D'un pervers, ou à jamais amoureuse que de toi. Oui, dis-moi ce que tu préfères. Des aventures avec une infidèle,
la routine avec une fille ordinaire, sans jamais n'avoir envie d'elle.
Dis-moi quitte à tout remettre en cause.
Boire pour oublier qu'elle t'oublie. Dans un verre de rouge, la vie est-elle si rose. T'étais pas avec elle, donc t'étais où samedi.
La vie défile vite. On s'épuise à trop se battre. Viens, on défile vite.
Dans les médias, c'est parce qu'ils ont peur pour nous, ou pour qu'on vive dans l'immédiat. Oui, dis-moi ce que tu préfères, être incompris ou ne pas le mériter, qu'on ne t'écoute pas ou qu'on te fasse taire. Dis-moi action ou vérité, dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi, dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi ce que tu préfères.
Dis-moi,
oui, dis-moi ce que tu préfères.
Puis à trop se battre, viens, on défile vide.
Le groupe L.E.J. ou L.E.J. nous chantait Acrobat.
Merci à Maurice. Et Maurice, tu viens de m'annoncer que L.E.J. ou L.E.J., c'est relativement nouveau, ces oui. trois filles-là. Moi, j'ai trouvé ça
Lucie,
par hasard.
Oui, Lucie, Elisa et Juliette.
Et j'ai, ben, écoute, j'ai trouvé ça par hasard cette semaine, en fait, en regardant un peu les chansons. J'ai vu Cirque et Loire, je me suis dit, les acrobates, c'est bon. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bon. Et on discutait, François, ensemble, pendant la chanson. Les influences de Stromae sont claires.
Mm-hmm.
Maxime, qu'est-ce que t'en pense. Maxime qui est au bout du fil.
Oui, bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, vous?
Oui, on parle découverte musicale et culturelle.
Ben oui, tout à fait, mais c'est vrai, je trouve le petit beat Stromae est vraiment présent et Emmanuel, je dois le reconnaître, c'est vraiment la meilleure pour introduire mes sujets de chronique.
Je suis tellement concept.
Oui, d'autant plus que c'était mon rôle aujourd'hui. Maxime, vous nous sortez encore à Shawinigan, la patrie de Jean Chrétien, mais il y a d'autres choses à faire là-bas.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à faire. J'ai découvert justement la Cité de l'énergie de Shawinigan cette semaine. Donc, je suis allée en excursion pour vous et j'ai vraiment été surprise par la quantité de choses à faire à la Cité de l'énergie. Et donc, je vais faire vraiment de mon mieux pour vous ramener l'essence de ces activités que j'ai regroupées sous trois thèmes ou trois axes autour de l'éducation, de l'histoire et du divertissement. Donc, la Cité de l'énergie à Shawinigan a un centre des sciences et un secteur historique. Une des grosses nouveautés cette année, c'est le spectacle multimédia. C'est une introduction, si on veut, sur le contenu qu'on retrouve dans, dans toute l'expo, mais aussi sur tout le site et qui est, qu'on retrouve dans chaque lieu. Et bon, on remonte pas jusqu'à la création du Big Bang, mais pas loin. On remonte quand même jusqu'à la naissance du système solaire. On explique en fait, c'est quoi l'énergie? Et donc, où est-ce qu'on la trouve? Dans la vie, dans les phénomènes météorologiques, les inventions humaines, la biologie. Alors, c'est une présentation sensorielle.
Rendu là, ça serait moins long de dire où on la trouve pas, l'énergie, là, parce que le monde est énergie.
En fait, la grosse question scientifique, c'est où n'est pas l'énergie.
Exactement.
On n'a pas beaucoup de réponses là-dessus. Alors, c'est une présentation qui est sensorielle aussi. Donc, il y a des vibrations, il y a du vent sur la nuque, une fine pluie sur le visage à différents moments. Alors, on vit vraiment cette expérience immersive. Et l'expo qui est rattachée à ce spectacle multimédia présente de l'information ou des jeux sur les sources d'énergie, qu'on pense au solaire, l'hydroélectricité au Québec, très présent, le nucléaire, on en apprend sur l'accidentologie de l'énergie, les changements climatiques, etc. Donc, ça se fait soit par des films, des installations ludiques, et comme par exemple, on peut, il y a des stations où on peut frotter très, très fort la paume de nos mains sur de petites plaques de métal conducteurs pour faire bouger un drone. Donc, c'est là qu'on voit vraiment concrètement comment les transferts d'énergie fonctionnent. C'est très bien fait. Et évidemment, ça va savoir capter l'attention d'un public plus jeune, qu'on peut rejoindre avec le côté immersif et interactif. Et ça, c'est vraiment, c'est un petit aperçu. Ça, c'est la nouveauté qu'il y a, entre autres, en 2018. Mais il y a d'autres choses, comme on disait justement, le musée Jean Chrétien, qui est présent, qui vise à présenter le Canada dans le monde. Et je dois avouer, j'ai pas vraiment prêté attention aux simulations de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale, mais c'est très intéressant parce qu'il y a des centaines d'objets qui sont exposés et ce sont des cadeaux reçus par le premier ministre ou sa conjointe durant ses fonctions, en fait. Alors, ce sont des cadeaux qui sont symboliques, offerts par des dirigeants d'autres pays ou des consulats, des choses comme ça, et ils ne peuvent pas les garder. C'est contre la loi, donc il a choisi de créer ce musée-là et de le rendre disponible pour le public. Alors, vraiment, quand on suit les guides, les bénévoles qui sont sur place, on a une foule d'anecdotes sur tous les objets qui sont regroupés par continent, par pays, par culture, donc qu'ils ont été offerts. C'est vraiment très, très, très intéressant à avoir. Et je dois dire que Jean Chrétien s'est battu vraiment pour faire ce musée-là à Shawinigan parce qu'au départ, on voulait l'amener à Toronto, une plus grosse ville. Et lui, il a dit non, ça se fait chez nous, à Shawi. Et donc, on a accès à ces choses-là. Et j'y vais rapidement. Il y a des visites de centrales hydroélectriques. Il y en a deux qu'on peut visiter. Il y a la Northern Aluminum Company, qui est plus en fonction, mais la plus impressionnante, moi, je trouve que c'est la centrale Shawinigan 2. Mm-hmm. C'est l'une des plus vieilles en Amérique du Nord qui est encore en fonction. Elle a débuté ses activités en 1911. Et elle a des turbines particulières qui étaient utilisées à l'époque vraiment et qui c'est une des seules encore qui les utilise combinées à la technologie d'aujourd'hui. Donc on parle de quelque chose d'horizontal et vertical là. Je serais pas très bonne pour vraiment vous expliquer, mais les gens là-bas sont vraiment très très forts. Et je vais rapidement un tour d'observation de 115 mètres de haut pour voir la région, pour voir les grands bassins autour. Beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, le spectacle du Cirque Éloise en soirée.
Il faut compter combien de temps pour visiter la Cité de l'énergie?
Bien, ça dépend en fait du forfait qu'on choisit de prendre. Si on y va seulement du côté du Centre des sciences ou on combine ça aussi avec le côté historique. Mais par contre, moi, j'ai passé toute la journée là-bas. Si on parle de 13 heures à, incluant le spectacle le soir, 23 heures. Et il me reste encore des choses à découvrir, choses à voir.
Une excellente sortie éducative pour toute la famille. Et si vous voulez que ça marche avec enthousiasme, je vous donne le conseil immédiatement. Dites pas aux enfants que c'est éducatif.
Vous allez perdre.
Ceci étant...
C'est comme des légumes dans un plat. On est capable de passer ça subtilement.
Oui, il faut le cacher. ceci dit, Shakespeare aussi se retrouve à Shawinigan.
Non, c'est pas Shawinigan, c'est à Montréal.
Ah, in the parks, bien sûr, pardon, j'ai honte.
Bien, peut-être un jour, cela dit, parce que c'est un mouvement international, Shakespeare in the Parks, qui a été créé au départ à New York. Donc, c'était le New York Shakespeare Festival qui a été créé par Joseph Papo, qui avait lieu à Central Park. Et donc, depuis, on s'est beaucoup inspiré de ce mouvement pour le répandre à travers le monde. Aux États-Unis, c'est une vingtaine de villes qu'il présente. Il y en a partout en Europe, en Australie. Et au Canada, c'est vraiment présent d'un bout à l'autre du pays, avec Bard on the Beach à Vancouver, jusqu'à Shakespeare by the Sea à St. John's. Et à Montréal, c'est la compagnie Repercussion Theatre qui présente Shakespeare in the Parks depuis 30 ans cette année. Et cet été, c'est l'indémodable Roméo et Juliette, évidemment, qui est présenté, avec deux femmes qui jouent les rôles principaux et, comme d'habitude, plusieurs interprètes de la diversité culturelle. Donc, vraiment, la compagnie a à cœur l'accessibilité au théâtre pour tous les publics. C'est gratuit dans les parcs municipaux, donc déjà les aménagements sont faits pour les personnes à mobilité réduite. On peut aussi louer des fauteuils roulants au coût de 5 $ au besoin sur place. On peut être accompagné par des bénévoles sur place. Et aussi, cette année, parce que ça se passe en anglais, mais pour suivre l'action, on peut avoir accès au texte avec notre téléphone intelligent et il y a des sous-titres en français. Donc, à partir d'une application designée spécifiquement pour la pièce, la scène qui est jouée est soulignée en rouge clignotant pendant la représentation. Donc, c'est un autre support aussi pour avoir accès au parc. Je vous dis très rapidement les prochaines dates. Ce soir, c'est à Beaconsfield. Demain, à Morin Heights. Dimanche à Rivière-des-Prairies et le 7 août, mardi, au plateau Mont-Royal. Et on termine le 8 août, c'est leur dernière, au Parc olympique.
Et on termine effectivement, puisque c'est tout le temps dont on disposait. En terminant, je signale quand même qu'une comédienne interprétant Roméo, c'est quand même un clin d'œil historique.
Mais est-ce que c'est ce qu'on a
Juliette
compris?
Juliette était d'abord interprétée par un comédien.
Mais on va le dire, dans le temps, Shakespeare, c'était les femmes qui jouaient les hommes.
Non, c'était les
hommes. C'était les hommes qui jouaient les femmes. Enfin, oui. Je veux dire, chacun notre tour, là.
Exactement. Oui, oui, c'est correct qu'une centaine d'années plus tard, on lance un peu le clin d'œil là-dessus. Et c'est vraiment, comme on dirait en anglais, le gender bending. C'est vraiment une tendance aussi en théâtre. Et donc, ils ont choisi de l'adresser aux classiques.
Et je signale que ce n'est pas de l'appropriation culturelle.
Oh my God! Si on veut en savoir plus, Maxime, parce que tu as nommé plusieurs villes dans les prochains jours, un site Internet où on peut revoir toutes ces dates?
Absolument. Shakespeare in the Parks à Montréal ou sinon la compagnie Repercussion Theatre. Et c'est disponible en français et en anglais comme information.
Super, merci beaucoup. Maxime, on aurait une minute, je pense, à t'accorder. Est-ce que tu voudrais nous parler du show Genderfucker, qui est, mon Dieu, ma foi, vulgaire?
Oui, c'est ça. Ben déjà, je parlais de gender bending. Alors, c'est la personne.
Ben c'est ça, c'est que je voyais qu'on s'en allait là, là.
Exactement. T'es bonne, tu t'es allée meilleure.
Je t'écoute quand tu parles.
Pascal Drévillon qui va déconstruire les stéréotypes masculins et féminins pour revendiquer la fluidité et la diversité du genre en abordant elle-même de front sa propre transidentité. Ça se passe à ZH Festival. C'est une perfo de 6 heures demain, donc à partir de 18 heures. Et il y a un cue spécial. On m'a dit que c'était bien important où il y a une scène particulière pour le coucher du soleil. Il y a de la bouffe sur place, plein de choses. On peut entrer et venir comme on veut durant toute la performance. Donc, c'est à voir.
Et c'est le 4 août. Et si on veut en savoir plus, on se rend sur le www.zhfestival.com.
Exactement. Exactement.
Merci beaucoup, Maxime.
Bon week-end.
C'est déjà presque tout pour nous pour aujourd'hui. Non seulement ça, François, mais je dois dire que c'est officiellement, après Annick qui nous quitte le vendredi, c'était officiellement notre dernier vendredi en co-animation ensemble.
Et voilà, je viens de recevoir mon 4%, c'est fait.
Parce que toi non plus, tu ne quittes pas le navire. Tu es là lundi de retour pour nos auditeurs. Bye!